Pourquoi je tords ça, hein? C'est ça, vous posez la question, hein? C'est pas un baptême ce matin. Mais on va faire quelque chose d'un petit peu différent ce matin. Mais avant, on va réciter notre psaume 23. Vous êtes prêts? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les vrais pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous êtes rendu pas mal bon. À chaque semaine, là, à chaque fois, j'enlève des mots. Hein? Fait que vous êtes bon. OK. Donc, ce matin, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est que ça va être une étude participative. Donc, ceux-là qui sont assis au loin, là, je vous encourage à vous approcher parce que j'aimerais vous faire participer avec moi. Ça va être comme un mode hybride ce matin. Il y a un message, oui, mais vous allez participer avec moi. Puis, n'ayez pas peur de parler. Je vous dirais que ça édifie les autres quand vous répondez, quand vous donnez. Même moi, je veux dire, des fois, là, les gens répondent, puis ça m'apprend quelque chose, là. Alors, je suis très édifié. Si vous êtes une personne qui a tendance à parler beaucoup, bien, peut-être pensez, là, de ne pas répondre tout le temps, de donner la chance à quelqu'un d'autre. Si, par contre, tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, là, je t'encourage à parler, OK? Ça marche? Donc, ce matin, on parle encore dans la série sur la vie de David. Et puis, on est dans le psaume 32. Le psaume 32. Donc, si vous avez une Bible ou votre Bible sur votre appareil électronique, je vous invite à tourner au psaume 32. Est-ce que je peux avoir un volontaire pour lire le psaume? Qui aimerait lire le psaume? Oui, Madame Martine. Parfait. Alors, est-ce qu'on va attendre deux petites minutes encore pour que tout le monde puisse trouver? Puis aussi pour l'enregistrement, j'essaierai de ne pas mentionner votre nom, OK, pour ne pas vous identifier sur l'enregistrement. Donc, je vais vous indiquer, vous levez la main si vous voulez parler, puis je vous indique mon frère, ma soeur. OK? Comme ça, vous n'avez pas peur d'être identifié sur l'enregistrement. Donc, le psaume 32, je vais mettre le micro pour que ça passe à l'enregistrement. J'espère que ça ne vous gêne pas.
Je lis la parole de Dieu. Heureux celui qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Excusez. Verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Et le verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que nous avons entre nos mains, qui nous révèle ta personne, qui nous révèle qui tu es et qui nous sommes également. Tu es tellement un bon papa pour nous. Tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Seigneur Dieu, ce matin, nous tournons vers toi. Nous voulons entendre ta voix seule. Nous voulons repousser en ton nom toute autre voix. Et nous voulons que ta parole tombe dans un sol fertile dans nos cœurs, pour qu'elle porte fruit pour ta gloire, Seigneur. Viens par ton esprit nous éclairer, illuminer les yeux de nos cœurs, éclairer notre intelligence, afin qu'on puisse te connaître davantage, t'aimer et te glorifier. Nous te prions, puissant nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, le psaume 32, dans certains de vos Bibles, vous avez une indication, c'est marqué « masquille » au début. Et puis, le terme « masquille » en hébreu, ce n'est pas un terme qui est très bien connu, certain de sens. Les érudits ne sont pas très certains du sens de ce mot-là, mais on pense que ça veut dire « instruction ». Et dans les psaumes, vous avez plusieurs types de psaumes. Les théologiens ont divisé les psaumes en différentes catégories. Il y a les psaumes de sagesse, dont le psaume 32 fait partie. C'est un psaume pour enseigner. D'autres catégories, vous avez des psaumes qui sont appelés des hymnes. Les hymnes, c'est pour adorer, pour louer Dieu, dans un attribut ou des attributs de Dieu qui ont été manifestés par des actes de grandeur qu'il a accomplis dans le passé. Ça, c'est des hymnes. Ensuite, vous avez des psaumes d'action de grâce. Ça, c'est des remerciements pour quelque chose de récent, de personnel, que l'auteur a vécu. Vous avez également des psaumes de royauté qui focalisent sur Dieu comme roi, ou sur David et sa descendance. Et parmi ces psaumes-là, on a les psaumes messianiques qui parlent du Messie qui va venir, de Jésus qui va régner. Vous avez également des psaumes de confiance qui expriment la confiance de l'auteur vis-à-vis Dieu dans ce qu'il vit. Puis, les psaumes peuvent se chevaucher, les catégories peuvent se chevaucher, des psaumes peuvent être dans plus d'une catégorie. Mais il y a définitivement des psaumes typiques de chaque catégorie. Bon, ça, c'était en guise d'introduction. Moi, lorsque j'étais adolescent, j'avais à peu près 16 ans, j'étais responsable d'un dépôt de journaux dans la maison de mes parents, un garage. J'avais un dépôt de journaux. Et les livreurs de journaux, ils venaient chercher à chaque jour leur pile de journaux pour ensuite livrer à leurs clients. Hein? Et puis, moi, j'étais responsable de compter le nombre de journaux et puis de leur donner les journaux. Mais il y a un de ces jeunes-là qui se moquait de moi à chaque fois parce que j'étais chrétien. Je m'étais déjà identifié à cet âge-là comme étant un chrétien. Et je ne courais pas avec les autres jeunes dans les parties, dans les apprendre la boisson, etc. Donc, lui, ce jeune-là, il se moquait de moi beaucoup. Mais un jour, et je ne répliquais pas parce que le Seigneur m'a dit de ne pas répliquer. Mais un jour, j'étais un jour d'hiver, où ce qu'il ventait beaucoup, j'étais en train d'enlever la neige, de déneiger le toit de notre patio en arrière de la maison. Et qui j'aperçois du coin de l'œil qui passe à côté de notre maison pour traverser notre terrain pour aller dans sa maison, c'est ce jeune-là. Et là, j'avais une bonne pelletée de neige dans mes bras. Et en plus, il ventait de son côté. Ah, j'ai pas pu résister. Je l'ai envoyé. Et j'étais vraiment fier de mon coup. Mais le Saint-Esprit, j'ai l'impression que non. Et cela est resté comme ça pendant plusieurs mois. Un jour, j'assistais à une fin de semaine de conférence donnée par un pasteur missionnaire célèbre que j'appréciais et j'admirais beaucoup. Il nous a entretenus sur l'engagement envers le Seigneur Jésus. Et si ma mémoire est bonne, il insistait sur le point que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Oh! Le Saint-Esprit me ramenait cet événement-là, que j'avais, cette action-là que j'avais portée contre le jeune homme. Et il me parlait de ce gars-là à qui j'envoyais la bonne pelletée de neige. Je résistais au fond de moi, mais je savais ce que je devais faire. Ça a pris plusieurs semaines, voire mois, je ne me rappelle plus, et tout mon courage avant de me retrouver devant sa porte pour sonner. Et là, je lui ai avoué ce que j'avais fait et je lui ai demandé pardon. Il était stupéfait, ne sachant quoi répondre. Je lui ai dit que c'était parce que j'étais chrétien que je faisais cela. Puis, malgré le fait de m'avoir abaissé volontairement, on appelle ça comment? S'abaisser volontairement? L'humilité, ouais, bravo! Alors, malgré ça, je me suis senti soulagé et ma relation avec le Seigneur restaurée. Ce matin, le psaume qu'on a lu, ça traite de la bénédiction d'être pardon, du pardon. La bénédiction du pardon. Quelques définitions. Je vais vous faire participer, ce n'est pas long, là, c'est des introductions, OK? Vous avez le mot « heureux », hein? « Heureux celui », qu'est-ce qu'il dit? « Dont la transgression a été pardonnée », OK? Moi, dans ma version, c'est « heureux l'homme dont la faute est effacée ». Mais « heureux », qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Bien, parfois, ce terme-là est traduit « béni », comme en psaume 1, « heureux l'homme qui hein, ne marche pas selon le conseil des méchants », etc. Ça veut dire « béni », « comblé », « épanoui », « un bien-être profond ». C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous avez le mot transgression, hein? Le mot transgression, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs termes pour décrire le péché. Le péché, c'est un terme qui englobe en général toute désobéissance à Dieu, OK? Péché. Mais transgression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de dépasser les limites. C'est d'aller trop loin. C'est une rébellion ouverte. C'est que tu sais que Dieu a dit ça, mais tu le fais pareil. Donc, par exemple, ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne trompe pas ta femme, ton mari, et tu le fais pareil. Péché. Alors, comme j'ai dit, il y a un terme général qui englobe tout, mais en fin de compte, le mot péché veut dire manquer la cible. Passer à côté, c'est que tu avais un devoir de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Comme si tu avais raté ton arrêt de bus ou ton train, tu n'as pas débarqué au bon moment ou tu as embarqué sur le mauvais vol. Tu devais prendre tel vol et tu as manqué sur le mauvais appareil. Ou tu as manqué de respect envers le code de la route. Tu devais arrêter à la lumière ou baisser la vitesse dans une zone scolaire et tu ne l'as pas fait. Dieu dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne l'as pas fait, tu as passé à côté. Dieu dit, aime ton voisin comme toi-même. Tu ne l'as pas fait. Dieu dit, aime tes parents, respecte tes parents, respecte les autorités. Tu as passé à côté. Tu as raté la cible. Sois juste avec les gens. Sois bon avec les gens. Sois généreux avec les gens dans le besoin. Tu as passé à côté. Quand, en principe, on dit « tu », mais c'est tout le monde. Là. On est tous. Après ça, vous avez le terme « iniquité ». Vous avez vu ça? Dans certaines versions, « iniquité ». « Iniquité » comporte l'idée d'une distorsion ou d'une perversion. Donc, ça n'a pas le même sens aujourd'hui, là, quand on entend à la radio, il y a des iniquités, là, ça veut dire des inégalités, des choses pas justes, mais ce n'est pas le terme de la Bible, ça. Le terme de la Bible veut dire, tu sais ce que Dieu dit, mais tu le fais, mais à ta manière. Tu le fais à ta manière, tu le fais tout croche. Bon, je ne donnerai pas d'exemple parce que j'ai peur de blesser des gens. Je ne vous connais pas nécessairement la moitié de vous, la moitié moins que je devrais vous connaître. Mais je ne veux pas donner d'exemple, mais il me vient des exemples à l'esprit peut-être que vous aussi. Ça va? Ensuite, la fraude. Dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude, ou il n'y a pas de ruse, ou... qu'est-ce qu'il dit dans des différentes versions? Dans ma version, c'est « exempt de mauvaise foi ». Ça veut dire que l'auteur fait référence ici à la disposition intérieure. La disposition intérieure. C'est-à-dire que tu peux avoir une conduite parfaite dans tout point, mais tes intentions ne sont pas correctes. Une conduite extérieure conforme et un cœur tortueux, rusé, qui agit par duplicité. Duplicité, c'est que c'est des intentions cachées. Hein? Duplicité, c'est le contraire de intégrité. Intégrité, ça veut dire un, ça veut dire uni. Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a là-dedans. Duplicité, là, le mot dupe, deux, ça veut dire que ce que tu vois, ce n'est pas la même chose en dedans. Donc, c'est tous des termes qui décrivent différents aspects du péché. Et David nous dit, heureux, qui est heureux? Le titre de mon message ce matin, c'est « Connais-tu la recette du bonheur? » Eh bien, voici un ingrédient. Heureux, la personne que Dieu pardonne de toutes ces choses-là. Donc, béni celui dont la transgression est enlevée, le péché pardonné. Et il continue, il dit, à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Certaines versions ont ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire imputer? Ça veut dire porter au compte de. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est tenir des comptes. Hein, des fois, on dit que je ne tiens pas des comptes, moi, je ne tiens pas de comptes. Ou quelqu'un tient des comptes serrés. Ça veut dire que tu me dois 10 $ et une scène, c'est 10 $ et une scène. Hein? Si tu m'as fait ce tort-là, c'est noté, là, ça ne sera pas oublié. Là. Je tiens compte. Donc, quand on pêche, c'est toujours premièrement envers qui? C'est vers Dieu. Et c'est noté. La Bible dit qu'à la fin, au jugement final, qu'est-ce que les gens vont être jugés selon les livres? Qu'est-ce qui est écrit dans les livres? Tous nos péchés. À moins que votre nom soit écrit dans le livre de l'agneau. Et là, ça efface tout ce qui est écrit dans les livres. Et c'est ça que David dit ici. Heureux l'homme, heureux la personne, heureux la femme. Littéralement, que Dieu n'inscrit pas dans ton compte ce que tu as fait de mal. Que Dieu a effacé ça. Et on va revenir à cette notion-là un petit peu plus loin. Donc, la bénédiction d'être pardonné, C'est une des clés du bonheur, la recette du bonheur. Ensuite, on a dans le psaume, quand on continue, on descend au verset 3 et 4, David dit, « Tant que je me suis tu. » Moi, dans ma version, c'est marqué « Tant que je taisais ma faute. » Ah! « Tant je me suis tu. » Ouais, tu t'es tu, mais dans quel sens? C'est que je n'ai pas parlé de ma faute. Je taisais ma faute. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a des effets néfastes ici. Regardez. Je m'épuisais à gémir sans cesse. Mes os se consumaient. À force de gémir. Qu'est-ce que ça veut dire gémir? Se lamenter en bon québécois. Se lamenter. Gémir. À longueur de journée. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Alors, quand on garde un péché dans notre cœur, comme j'ai fait, et on ne confesse pas, bien, ça peut avoir des effets néfastes sur notre santé spirituelle, physique et émotionnelle également. Qu'est-ce qu'il dit ici? Sa force, sa vigueur n'était plus là. Il n'y avait plus de force. Ma vigueur m'abandonnait, il dit dans ma version. Et il parle de sécheresse. Donc, fatigue, pas d'énergie, manque de force. Et on peut appliquer cette vérité-là du point de vue spirituel aussi. Tu n'as pas de force pour vivre avec Dieu. Tu n'as pas la force pour ressembler à Jésus dans tes relations. Tu ne trouves pas la force pour aimer les autres. Tu n'as plus d'amour à leur donner. Tu n'as pas la force pour résister au péché. Tu n'as pas la force pour pardonner. Ça prend de la force pour pardonner. Tu n'as pas la force pour témoigner. Ça fait des mois et des mois et des mois que tu n'as pas parlé à personne de Jésus. Tu n'as pas la force pour participer à la vie de communauté de l'Église. Ça prend de la force, ça. Pas évident, les relations, hein? Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Il y a l'image d'un désert, le manque d'eau, hein? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé que souvent, quand je suis fatigué, c'est parce que je manque d'eau. J'ai pas bu. C'est ma femme qui me dit, c'est parce que t'as pas bu toute l'après-midi, là. Bois un peu. C'est remarquable. Donc là, commence la partie où ce que je vais commencer à vous faire participer, d'accord? Troisième point, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la nécessité de confesser, d'avouer. Parce que David dit, « Jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. » Oh! Oh! Si tu as Dieu comme Père, si tu as cru en Jésus comme ton Sauveur et ton Maître, tu es devenu enfant de Dieu, ça on l'a déjà vu. Si tu as Dieu comme Père, Dieu ne te laissera pas aller comme ça. Dieu est un bon papa. Et sa main va s'apesantir. Sa main va devenir lourde sur ta vie. Tout ce que David vient dire, c'est à cause d'un péché non confessé. Moi, j'ai senti ça plusieurs fois dans ma vie. La main de Dieu qui s'apesantissait sur moi. Des fois, ça prend du temps à le reconnaître. Mais de là, la nécessité, et c'est pour nous amener, nous, ses enfants, à confesser, à avouer notre faute. C'est pour notre bien, c'est pour ton bien que Dieu fait ça. Donc, la nécessité de confesser, d'avouer sa faute. Maintenant, j'ai une question pour toi, puis j'aimerais avoir vos idées. On a plusieurs stratégies pour éviter d'avouer notre faute. Quelle stratégie on prend pour éviter d'avouer notre faute? Est-ce qu'il y a des idées? Oui?
C'est pas si grave.
OK, c'est pas si grave que ça.
Non, je vais l'oublier.
C'est pas si grave. On minimise ce qu'on a fait, hein? Ignorer ce qu'on a fait. Pardon? OK, rejeter le blâme sur... Hey, c'est bon ça. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Tu vois là, c'est bon. Se justifier. Se juger. J'avais raison. Le gars là, il s'est moqué de moi pendant des mois et des mois. Ça lui revenait. C'était justifié. D'autres idées? Oui? OK. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Alors, parfois, on dit c'est trop grand ce que j'ai fait. Donc, je ne veux pas en parler avec Dieu. Pourquoi? Il peut avoir des raisons à ça. Quelle raison qu'on n'irait pas à Dieu parce qu'on trouve que c'est trop grave? OK. On a peur. On a peur. On peut avoir peur des représailles que Dieu, il nous châtie, peut-être. Les conséquences. On a peur de faire face aux conséquences. Si je l'avoue, là, c'est ça. Là, ça ouvre la porte, là. Peut-être qu'il y a des conséquences. Est-ce que je peux avoir honte aussi, peut-être? Je peux avoir honte d'aller à Dieu? Est-ce que ça peut m'empêcher? Donc, quelle stratégie cacher? David dit ici qu'il l'a caché, hein? Il a caché sa faute. Verset 5, « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. » Fait caché. Il a caché, on a dit, minimisé, diminué, excusé ou justifié, compensé. J'ai fait quelque chose de mauvais, mais je sers le Seigneur fidèlement à l'école du dimanche, où je donne mon temps pour « j'aime mon voisin », où je suis leader de louanges dans l'Église. Et puis là, je sers le Seigneur, je garde, Seigneur, ce que je fais pour toi. Il y a un exemple de ça, on a vu dans la vie de Saül. Quand Dieu a dit, « Va, élimine la nation amalécite, qui est, je veux, moi, que tu sois mon instrument pour les éliminer. » Et lui, il a fait quoi? Il a épargné le roi, et il a épargné les brebis, les bœufs, tout ça. Et Samuel arrive, il dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » Ah, il dit, oh, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Il dit, non, 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 non. Et qu'est-ce que Samuel a dit? Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Saül a dit, bien, on a gardé les meilleures bêtes pour les sacrifier à Dieu, là. Regardez. Fait qu'il a désobéi à Dieu. Il a manqué la cible. Hein? Il a péché parce que Dieu, c'était clair ce que Dieu voulait. Il a manqué la cible. Et là, il dit, bien, on a gardé les brebis pour les sacrifier. Fait que ça, c'est une autre stratégie qu'on prend, toi et moi, des fois, pour éviter d'avouer notre faute. On compense. On fait des choses pour compenser, là. Mais Dieu dit, ça ne marchera pas. Fait qu'est-ce qui nous empêche d'avouer nos fautes? Ça, c'est des stratégies. Rejeter la faute sur l'autre. Ça, je vais l'ajouter à mon frère, c'est bon. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher? On a parlé de la peur, on a parlé de la honte. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avouer ta faute aussi? L'orgueil. Ça, c'est probablement la réponse numéro un. Hein? L'orgueil. L'orgueil. Le cœur de l'être humain est orgueilleux. Le mien comme le vôtre. Donc, orgueil, honte, peur. Et là, David, il dit, il vient au point où ce qu'il avoue. Probablement que ça a pris plusieurs... On ne sait pas, hein, c'est quoi le péché. Ce n'est pas marqué. Certains ont dit c'est le péché avec Bathsheba. On ne le sait pas. On sait que David il a commis d'autres péchés dans sa vie. La semaine passée, on a vu qu'il voulait se venger, qu'il voulait commettre un meurtre. Et heureusement que Dieu a envoyé Abigaïl sur son chemin. Mais dans son cœur, il avait commis le meurtre. Hein? Peut-être c'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi le péché. Mais, et combien de temps que ça a pris? On ne sait pas non plus. Mais ça a pris assez de temps pour que la main de Dieu s'apesantisse sur lui et qu'il devienne sans force spirituelle et qu'il gémisse. Et qu'il souffre. Et mais là, il dit, « J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacer la peine de mon péché. J'aime bien la Bible du Semeur. Tu m'as déchargé du poids de ma faute. Dieu choisit d'avouer, c'est un choix, hein? C'est un choix difficile. C'est un choix difficile d'avouer sa faute. Je vous dirais, surtout quand l'autre a beaucoup de fautes, ben moi j'ai une petite faute. C'est encore plus difficile. Quand on a vu « retire la poutre de ton œil » avant, Jésus dit. C'est difficile. C'est difficile d'avouer sa faute, mais tellement, tellement bienfaisant par la suite. Parce qu'il y a un poids, hein? Il y a un poids qui est enlevé de tes épaules. Le Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et les délaisse, hein? C'est pas assez juste de dévouer, d'avouer, il faut les délaisser. Ça, c'est la vraie repentance. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à la nécessité de confesser, d'avouer sa faute. Quand? À quel moment? C'est quand qu'il faut faire ça? Tu as des idées? Oui? À ça? Tous les jours, OK, c'est excellent. Oui?
Quand on le réalise.
Le mal, le tort que j'ai causé, quand je le réalise. OK. David a dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Ah, dans la Bible du Semeur, au temps opportun. Une question. C'est quand le temps convenable? C'est le temps convenable pour qui? Oui? OK. OK. Est-ce que c'est le quand ça te convient, toi? Ah! OK. Si tu dois aller chercher quelque chose au magasin dont tu as désespérément besoin, tu es en plein milieu d'un projet, là. Tu es en plein milieu de cuisiner un plat, puis ça te prend tel ingrédient, ça te prend tel vis pour finir ton projet. Hein? Tu as besoin de ça, tu vas aller quand? C'est là, là, avant que
ça ferme,
hein? Avant que ça ferme. Donc, c'est quand ça convient. Eh bien, à quel moment faut-il demander pardon à Dieu pour ton péché? Quand ça te convient, toi? C'est lorsque ça convient à la seule personne qui peut t'accorder ce dont tu as besoin désespérément, le Seigneur. Et lui, il dit quoi? Regardez ce qu'il dit. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et plus tard, dans Hébreux, il dit, « C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. » Donc, il est clair que le temps convenable, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le plus tôt possible, aussitôt que possible. Pourquoi? Pourquoi c'est là, puis pas demain? Avez-vous des idées? La main, s'il vous plaît. Pour pas que la situation s'envenime, OK, c'est une bonne raison, c'est bon. Pour ne pas endurcir nos cœurs. C'est une grâce que Dieu t'offre d'avouer ta faute. OK? Y a-t-il une autre raison? Pensez-vous qu'il peut y avoir une autre raison? Je peux me lever ce matin, traverser la rue et... Trop tard. Il peut être trop tard, hein? C'est ça que tu voulais dire, mon frère? C'est bon. Il viendra un moment où il sera trop tard, soit que ton cœur s'endurcisse, soit que tu meurs ou que le Seigneur Jésus revienne. Après la mort, nous dit la parole, c'est le jugement. Pour ceux qui sont en Christ, leurs péchés sont pardonnés à cause du sacrifice de Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, que vas-tu faire face au jugement de Dieu? Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi Dieu te pardonnerait-il? C'est le simple fait de l'avouer que Dieu pardonne? Comme si tu commets un meurtre, puis là, t'es pris de... T'es pogné, puis la police t'arrête, puis t'amène en cour, et puis devant le juge, j'avoue que j'ai tué cette personne-là, il va te pardonner. Pourquoi le juge te pardonnerait? Il faut qu'il y ait un paiement, là. Même si tu l'avoues, même si tu le regrettes, juge, je suis coupable, je le regrette. Puis même, je ne recommencerai plus jamais. Qu'est-ce que le juge va dire? Il y a une pénalité, quelqu'un doit payer. Hein? Et dans la Bible, ce quelqu'un-là, c'est soit toi ou soit Jésus. Dieu a pourvu pour Jésus, pour toi. Et c'est là qu'on voit que Christ est le seul refuge pour nous, pécheurs. Christ est le seul refuge. Vous vous rappelez dans l'histoire de David où ce que David est pourchassé par Saül, et on avait vu que David dit, tu es mon refuge, tu es mon rocher de salut contre l'ennemi de mon âme. Et l'ennemi de l'âme, c'est Satan et la mort. Ça représente le refuge de Christ. Qu'est-ce que David dit ici? Retournez dans le psaume. Verset 5, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Alors, il parle de grandes eaux qui déferlent. À quoi ça vous fait penser? De grandes eaux. Dans d'autres versions, quand les eaux débordent, ça fait référence à quoi? Oui? Les épreuves, OK. Mais l'image, là, l'image, c'est quoi ça? C'est un déluge. Effectivement, c'est un déluge. Quand les eaux débordent, c'est un déluge. OK? Ça fait référence à un déluge. Et le déluge, ça amène la notion de jugement. Le déluge, c'était le jugement de Dieu sur la terre. Donc, il fait référence au jugement. Quand le jugement arrive, le jugement de Dieu arrive, qu'est-ce qui va arriver? Ils n'atteindront pas celui ou celle qui aura avoué ses fautes, qui aura trouvé refuge en Christ. Ça marche? Donc, pourquoi Dieu pardonnerait? Il dit, tu es un abri pour moi. Vous voyez, verset 7, les grandes eaux débordent, déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri, toi Dieu, tu es mon abri. Tu me gardes, tu me garantis du danger. Et pour nous, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. On a vu ça. Paul reprend cette pensée-là exactement mot pour mot dans Romains 4. Si vous voulez regarder avec moi, Romains 4, waouh, le temps avance, hein? OK. Romains 4, versets 6 à 8. Paul dit, Romains 4, 6 à 8, « David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Il dit, « Heureux sont ceux dont les fautes ont été pardonnées, dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Si le Seigneur n'a pas porté le péché à ton compte, il l'a porté à quel compte? » À Jésus. Si tu as trouvé refuge en Jésus, alors Dieu, il a pris les péchés, il l'a mis à son compte. Et non seulement ça, mais il prend la justice de Jésus et il met à ton compte. Wow! Ce bonheur est-il réservé aux seuls circoncis ou est-il accessible aux incirconcis? Et là, Paul va parler d'Abraham qui était incirconcis quand Dieu l'a déclaré juste sur la base de sa foi. Donc, si on regarde à la toute fin de ce chapitre-là, au verset 24, verset 23. Or, cette phrase, « Dieu a porté sa foi à son crédit ou l'a imputé à justice », a été consignée à l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne, nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit ou nous imputée à justice, à nous qui plaçons notre foi en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc, on a vu, là, il y a quelques semaines, que le péché attire le juste jugement de Dieu sur nous, mais si nous sommes en Christ, nous ne craignons pas l'effet de ce jugement-là, la mort éternelle, mais nous pouvons être certains d'avoir la vie éternelle. Amen. Maintenant, on poursuit. Qu'est-ce qu'on voit ici au verset 8? Au verset 8, David nous dit, si on retourne dans le psaume 32, psaume 32, verset 8, qu'est-ce qu'il dit, David? Je vais, et là, c'est Dieu qui parle, hein? Faut réaliser que c'est Dieu qui parle. Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras suivre, tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Donc, Dieu prend plaisir à pardonner, mais si il peut t'empêcher de pécher pour commencer, ben c'est encore mieux. Hein? Donc, on a vu comment Dieu a agi avec David et Abigaël. Dieu a envoyé Abigaël pour arrêter David dans son chemin qui l'amenait à pécher. Et David avait le choix de s'humilier, de s'abaisser et d'écouter ou de continuer à suivre son chemin. Dieu veut t'instruire pour t'éviter. Dieu veut te pardonner, oui, mais il veut te montrer la voie, te conseiller, avoir le regard sur toi. Ne sois pas, il dit au verset 9, hein, on l'a vu la semaine dernière, comme le cheval à qui on doit mettre un bride, un mors, pour le contrôler. Par force. Sois pas, et pas le coup raide. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 10, ils sont nombreux, les malheurs, ou les tourments, ou les souffrances de ceux qui n'écoutent pas, les méchants. Qui n'écoute pas, qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas qu'on les reprenne, qui ne veut pas qu'on les instruise. Hein? Une des caractéristiques là, vraiment fondamentales de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est qu'il est ou elle est enseignable. Enseignable. Qu'on peut le reprendre avec douceur. Elle ne se fâchera pas, elle va plutôt te remercier. Ça, c'est un signe de repentance. Et la repentance, c'est la première étape pour devenir enfant de Dieu. Donc, une dose de prévention. Qu'est-ce qu'il dit? Après ça, ils sont nombreux les tourments qui atteignent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont entourés de sa grâce, sont entourés, comblés, dans ma version, comblés par son amour. Wow! Environnés de sa grâce, de sa faveur. C'est ça que ça veut dire, grâce, sa faveur. C'est merveilleux. Et puis, qu'est-ce que ça dit après ça? C'est que David nous appelle à louer Dieu avec lui, juste. Bon. Qui est juste? Il n'y a personne de vraiment juste en lui-même. Mais la personne que Dieu appelle juste, c'est quelqu'un que lui a déclaré juste parce qu'il s'est reconnu pécheur et il s'est tourné envers Jésus pour recevoir le pardon et le salut. Et sur la base de cette foi-là, Dieu le déclare juste. Puis là, David nous appelle à louange. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie à l'Éternel. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc, vraiment, un beau psaume, un psaume merveilleux. Et comme on voit souvent dans les messages que je vous apporte, à travers la parole de Dieu, Dieu nous révèle des choses. Hein? Dieu, c'est une révélation qu'on a eue ce matin de la personne merveilleuse de Dieu, pas vrai? Révélation devrait nous conduire à l'adoration. Hein? R-A-C-E. Vous êtes une race de peuple élu. R-A-C-E. Révélation à adoration. Il manque le C. Confession. Heureux celui qui, hein, confesse. Le bonheur d'être pardonné. Confessé et engagement. OK. Fait que ce matin, je vous encourage, comme David, à vous réjouir, à pousser des cris de joie. J'aimerais vous laisser l'opportunité d'adorer le Seigneur par de courtes prières. Si vous voulez confesser quelque chose aussi à Dieu, faites-le. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas orgueilleux. Hein? C'est difficile, mais peut-être silencieusement, vous réalisez qu'il y a quelque chose que vous traînez depuis longtemps, que vous devez confesser à Dieu. Puis faites-le. Et puis, prenez un engagement. Prenez un engagement envers Dieu. On a vu aussi, dans la dernière année, les caractéristiques d'une vie christocentrique versus une vie égocentrique. Souvent, le péché, on pense que c'est « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça. » Mais en réalité, là, à la base, là, c'est une vie qui est totalement centrée sur soi, dont Dieu ne fait pas partie. À la base. C'est ça le péché, à la base. Parce que Dieu, en tant que créateur, en tant que source de vie, de lumière, de toute bonté, il a le droit qu'on soit centré sur lui. Il a le droit qu'on l'aime, qu'on le remercie, qu'on le serve. Et puis, je dis, non. Non. Je vais vivre ma vie comme je l'entends, et je veux faire ce que je veux, et vous n'avez pas besoin d'être méchant, dans le sens que le monde pense qu'on est méchant, là, activement. Vous avez juste besoin de faire ça, et là, Dieu vous dit, coupable. OK? Fait que peut-être c'est juste ça. On a vu les différents aspects de la vie égocentrique, autonomie à l'extrême, autosuffisance, auto-justification, autosatisfaction, autodidacte, on ne se laisse pas enseigner, on est nos propres enseignants, autoprotection, on se protège à l'extrême. Et ça peut être un élément comme ça que Dieu vous amène à confesser dans votre vie. Fait que je vous laisse deux petites minutes. Si vous voulez adorer le Seigneur, le remercier pour sa grâce, pour le bonheur de son pardon. Mais ce n'est pas pour la belle température, là. C'est pour rapport avec ce qu'on a vu ce matin. Fait que je vais commencer. Merci, Seigneur, de nous révéler ta bonté, ta grâce ce matin.